9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez sur Europe 1. Jusqu'à 11h, nous partons, chers amis, en Provence ce matin et ce tour de la question va être riche d'évocations. La garrigue, les cigales, la fille du puisatier, la guerre des sources, la femme du boulanger, l'accent de Marius ou du Gaulin. Les trésors de Pagnol, vous nous occupez ce matin alors qu'un documentaire les explore ce soir sur France 3 à 21h. Pagnol, homme de lettres, académicien, qui joue avec la langue, avec un réalisme social aussi, qui parle d'amour, d'honneur, de dignité, d'ascension en société. Portrait de l'homme derrière ces personnages cultes interprétés par Rému, Fernandel, Daniel Auteuil ou Yves Montand, tout près de nous. Si vous êtes amoureux de son œuvre, eh bien vous n'hésitez pas à nous le dire au Standard Europe 1 parce qu'on va échanger avec des spécialistes, des amoureux de Pagnol et avec son petit-fils Nicolas Pagnol qui est en ligne avec nous. Julie, on vous écoute. Hein.
Au Standard, le 39 21 50 centimes la minute.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Oh chef! Oh, j'arrive! Je vole, me voilà!
Au commencement était le verbe. Moi, disait Pagnol, j'en ai mis au milieu et à la fin.
Si la voiture ne prend pas, tu prendras 12 bouteilles. Si tu prendras rien, je téléphonerai.
On parle beaucoup chez Pagnol, c'est vrai, avec des mots gorgés de soleil.
Quand on fera danser les couillons, on ne sera pas à l'orchestre. Bonjour, monsieur.
Et un accent unique au monde.
Tu me fends le cœur!
Un accent qui défie le ciel, très haut, très fort.
Oh! Et alors? Alors nous jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rire, à toi, il te fait rire.
Avec des colères qui éclatent et disparaissent, aussitôt comme les orages des soirs d'été dans les collines de Provence.
Voilà comment ce documentaire ce soir sur France 3, magnifique documentaire sur les trésors de Marcel Pagnol que vous avez réalisé, Fabien Béziat. Merci d'être avec nous en ligne pour Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Je salue Karine Anne qui est en studio avec nous, écrivain, spécialiste de Marcel Pagnol. Vous avez écrit Marcel Pagnol, un autre regard justement, et merci de nous faire partager votre regard sur Pagnol. Bonjour.
Bonjour.
Aux éditions du Rocher, cet ouvrage. Et Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, qui est également avec nous pour cette émission. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors c'est une œuvre littéraire, cinématographique, qui se classe évidemment au rang des classiques, classiques relus, revisités, revus au cinéma notamment, de Berry à Yves Robert jusqu'à Daniel Auteuil. Fabien Béziat, pour ce documentaire qui vous a pris 2 ans et demi de travail, d'archives, de documentation, parce que vous avez revu toute l'œuvre et relu toute l'œuvre de Pagnol, vous avez décidé de faire un hommage à l'homme qui fut enfant, et ce qui explique beaucoup son itinéraire, à l'auteur, au réalisateur, cet homme qu'on connaît moins que ses personnages, au fond.
Bah oui, parce qu'en fait, pour comprendre l'œuvre de Pagnol, en fait, il fallait revenir sur la biographie du personnage, parce que Pagnol, en fait, a donné beaucoup d'indices, en fait, toute sa vie dans son œuvre. Et puis Pagnol disait l'universel en latin en restant chez soi. Et en fait, il a regardé à la hauteur de sa vie et il a créé une œuvre, je pense, universelle et qui nous est tous très très proches, en fait, parce qu'il a su, en fait, regarder, en fait, juste les hommes et les femmes qu'il entourait, qu'il aimait. Voilà, c'était très important de raconter, en fait, pour moi, hein, la vie intime, la vie passionnelle, la vie, en tout cas, je vais dire, quotidienne de Pagnol, parce que ça distille, en fait, et on a une compréhension de son œuvre beaucoup plus directe, je pense.
Voilà. Oui, absolument, et le documentaire est exceptionnel pour cela. Œuvre universelle, dit Fabien Béziat, réalisateur de ce documentaire, et pourtant très territorial, très local, très provençal, Karine Anne. C'est ça qui est intéressant avec lui, c'est comment il a fait de sa région un bout du monde, quelque part.
C'est-à-dire qu'on dit plus c'est local, plus c'est général. En fait, c'est un peu un petit monde qui est à l'image du grand, finalement. Et il a domicilié son œuvre en Provence parce que c'était sa chère Provence et parce qu'il est originaire de là-bas. Mais au départ, il est monté à Paris. Parce qu'à l'époque, il fallait quand même monter à Paris pour réussir. Et il était persuadé que Marius ne pouvait être joué qu'à Paris et qu'à Marseille. Et on lui a dit, mais non, pas du tout. C'est une œuvre universelle. Et en fait, Pagnol atteint effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, l'universel en restant chez lui.
Nicolas Pagnol, vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol. Vous n'avez pas connu votre grand-père, mais vous avez grandi dans son souvenir, dans son art aussi, notamment grâce à votre grand-mère, son épouse, Jacqueline Pagnol. qu'admirez-vous le plus aujourd'hui de l'œuvre que vous a léguée et qu'a laissée à tous les Français et à tous les lecteurs, Marcel Pagnol ?
C'est très compliqué comme question, ce que j'admire le plus chez lui, parce que j'admire beaucoup de choses. Mais dans son œuvre, je dirais que c'est l'humanité qui s'en dégage, oui. Et que c'est une œuvre qui parle à toutes les générations, parce qu'elle développe des thèmes essentiels, le respect de l'autre, le respect de soi-même, le respect de la nature, les rapports filiaux. C'est une œuvre somme toute assez classique, enfin, très classique,
oui.
Bien qu'elle se passe en Provence et qu'on a un ton assez léger. C'est une œuvre qui nous parle de notre humanité, de tout ce qui nous rassemble en tant qu'être humain.
Oui, dans la fameuse comédie humaine qu'il aimait dépeindre de manière, vous le disiez Nicolas, avec des mots à la fois doux mais très outranciers. Hein, il aimait faire aussi gouailler ses personnages.
Oui, mais là, alors là, on retourne en Provence, c'est oui. Cette langue provençale, cette, j'ai envie de dire, cette façon de vivre provençale où le verbe est très haut. Et on peut prendre comme exemple sa relation avec Rému, qui a été très très mouvementée, mais en même temps pleine d'amour et de tendresse. Mais tout le monde pensait parfois qu'il ne se reparlerait plus jamais vu ce qu'il se disait. c'est une langue très vivante, son cinéma est très vivant. On est dans une sorte de réalisme quand même.
Complètement, oui.
Voilà.
Et j'ai beaucoup apprécié de préparer cette émission et de revoir des scènes fameuses de son cinéma, dont on parlera dans l'avant-garde aussi de manière très intéressante, puisque vous parliez, Nicolas Pagnol, de ce réalisateur aussi de l'humain, du sentiment, des émotions. Réécoutez, s'il vous plaît, avec nous cette fameuse tirade du boulanger. On est dans ce petit village de Haute-Provence. Ce boulanger, incarné par Rému, découvre un matin que sa jeune femme est partie avec un berger. Il décide de faire la grève du pain tant que sa femme n'est pas revenue. Et puis, elle pousse la porte de la boulangerie. Elle s'installe puisque le village s'est mobilisé pour la retrouver et voici cette scène quasiment d'anthologie. Écoutez, Rému face à Ginette Leclerc.
La voilà. Tu l'as vu retourner la pomponnette? Dis, garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Oh, mais toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler...
Ça, c'est magnifique. C'est une scène magnifique, Karina. On est en 1938. Rému qui n'ose pas dire à sa femme ses sentiments et qui profite du retour de la petite chatte de la famille pour dire sa peine et sa gêne quasiment. C'est superbe. Il faut revoir cette scène aussi pour ça.
Il faut revoir cette scène. Et c'est un procédé qui est très peu utilisé. On le retrouve une fois chez Racine. Effectivement, de s'adresser à un autre personnage pour faire passer,
un message.
Message, oui. Ouais. Et j'en profite pour dire que il y a une certaine lecture parfois de Pagnol qui, à mon avis, est erronée, qui consiste à dire que c'est finalement une lecture très machiste, ouais. Que les femmes sont traitées. Alors là, on entend garce, salope, etc.
C'est un mot qu'il emploie souvent d'ailleurs dans son œuvre.
Parce qu'elle est partie avec un berger du clair de lune.
Et
en fait, à mon avis, c'est un contresens complet parce que quand on regarde les héroïnes de Pagnol, ce sont elles qui sont porteuses, justement, de l'honneur, de la beauté, des vraies valeurs. Quand Fanny dit à sa mère, Honorine, lui dit, bon, après tout, tu es enceinte, tu épouses Panis, et puis tu lui dis pas, et voilà. Mais elle lui dit, mais ça serait ça le vrai déshonneur. Donc toutes ces jeunes femmes qui finalement ont subi ce problème d'être enceinte en dehors des liens du mariage ou d'aller effectivement voir un berger, c'est pas du tout des gens sur lesquels Pagnol jette son opprobre, pas du tout. C'est au contraire des jeunes femmes qui vont être réhabilitées à la fin de l'œuvre, qui vont trouver l'amour, qui vont finir dans la réhabilitation complète. Alors c'est très intéressant cette mise en perspective, parce qu'on a d'un côté un Pagnol qui est le mâle méditerranéen quand qui a eu une vie haute en couleurs, qui s'étonnait d'ailleurs que toutes ces femmes ne veuillent pas vivre dans la même maison, parce qu'il aurait trouvé ça pratique étant donné qu'il avait des enfants différents de chacune. Et à côté de ça, dans son œuvre, il est finalement extraordinairement en avance. Parce que d'une certaine manière, toutes ces femmes sont réhabilitées, alors que pour l'époque, elles ont quand même fauté.
Bien sûr, ouais, c'est très intéressant. Fabien Béziat, est-ce que vous mettez aussi en avant dans ce documentaire, hein, Les Trésors?
Alors, je partage totalement ce que vient de dire Karen-Anne, d'autant que, par exemple, si on prend Marius ou si on prend la fille du Puisatier, il y a une figure en fait, qui est centrale, mais qui n'est pas présente, c'est l'épouse en fait, décédée. C'est-à-dire que les personnages masculins sont veufs, et justement, c'est parce qu'en fait, la pudeur s'exprime par le fait que la mère est absente. C'est-à-dire que la mère absente, c'est celle qui normalement dit les mots d'amour. C'est celle qui fait passer, en fait, la douceur. Et les personnages, en fait, de Pagnol sont pris d'une pudeur parce qu'il y a ce chagrin fondamental d'avoir perdu l'être aimé. Et justement, c'est en dessous de la parole. Moi, ce que je trouve fantastique chez Pagnol, c'est qu'en fait, on est en dessous de la parole. On est devant la parole parce que le spectateur prend du dialogue pendant deux heures de film. Mais en fait, ce qui se passe, c'est en dessous, c'est vraiment à chaque fois. Et là, il y a quelque chose de très très beau, c'est que c'est, moi, je trouve des odes à l'amour exemplaires, en fait, voilà, sur des façons déviées. C'est-à-dire que le spectateur est toujours mu chez Pagnol. Quand on regarde un film de Pagnol, on bouge en même temps que les acteurs. On est mu par nos émotions. Ça va chercher très profond chez nous. Et c'est pour ça que Pagnol reste encore intact aujourd'hui. Et c'est rare d'avoir un auteur qui, au présent, en fait, nous renvoie à nos émotions.
Et c'est très joliment mis en valeur par les mots que vous avez choisis d'écrire pour ce documentaire raconté par Fabrice Luchini, Karen-Anne et ensuite Nicolas Pagnol.
Oui, je complète, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand vous mettez justement la vie de Pagnol en perspective avec son œuvre, il n'y a pas de famille, à part dans les souvenirs d'enfance où il raconte son enfance, il n'y a pas de famille complète chez Pagnol. Il n'y a toujours que le père, que la mère. Et ça, effectivement, c'est son histoire. C'est cette mère qu'il a perdue trop tôt. Oui.
Nicolas Pagnol, avant une petite pause, qui est magnifique avec votre grand-père, justement, c'est comment il a su dépeindre les sentiments humains avec cette pudeur et avec cette tension, mais parfois indicible, qu'on retrouve à la fois dans son œuvre littéraire et dans ses films, évidemment.
Oui, je crois que ça vient du fait qu'il a soigné ses blessures avec son œuvre. Hein. Marcel perd sa mère à 15 ans. Il explique qu'on a beaucoup de veufs, en fait, dans son œuvre. Ensuite, effectivement, c'est un amoureux transi, il a eu plusieurs compagnes. Alors, je ne sais pas s'il voulait vivre avec toutes ses compagnes dans la même maison, mais on retrouve énormément de lui dans son œuvre, comme pour tous les artistes. Mais les thèmes, pour revenir à la femme, en tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui a souffert de l'absence de la femme, de sa mère, en tout cas. Et il en dresse toujours de très beaux portraits dans son œuvre, que ce soit de sa mère dans les souvenirs d'enfance ou de jeunes femmes face à leur destin dans le reste de son œuvre, soit dans Marius, soit Annie, la femme du boulanger ou encore la fille du Puisatier. Il est absolument pas machiste. Marcel, ma grand-mère me parlait de lui, c'était un homme d'une tendresse incroyable et qui se comportait comme un homme d'aujourd'hui. Voilà.
Nicolas Pagnol, Fabien Béziat, Karen-Anne, vous restez avec nous pour parler de ce trésor national que nous a laissé Marcel Pagnol et pour parler de l'homme, justement. Documentaire ce soir 21h sur France 3. Je suis sûre qu'après ce documentaire, vraiment que je vous recommande de regarder, vous aurez envie de redécouvrir l'œuvre entière de Pagnol. Elle est très éclectique, il a été extrêmement prolixe. Il s'en explique dans un instant dans une archive. À tout de suite, ma chère Julie sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Nous plongeons ce matin dans l'univers de Marcel Pagnol à l'occasion du documentaire qui lui est consacré ce soir à 21h sur France 3. Wendy Bouchard.
Pagnol éternel, Julie, qui fait rayonner Marseille et la terre de Provence dans le monde entier. Une œuvre universelle, pleine de sentiments. Vous redécouvrirez son talent, son éclectisme aussi dans ce film. Archive du maître Pagnol qui s'exprime lui-même sur son œuvre. Écoutez.
J'ai un grave défaut qui est de changer d'art à chaque instant, n'est-ce pas ? J'ai commencé par faire des pièces de théâtre qui ont eu beaucoup de succès, comme Topaz et Marius. Alors je n'en ai plus fait. J'ai fait des films. J'en ai fait une douzaine qui ont eu beaucoup de succès. Alors je n'en ai plus fait. J'ai fait des livres, j'ai fait mes souvenirs d'enfance. C'est une manie, au fond. Ça n'est pas raisonnable.
C'est un talent inouï, en tout cas, qu'il dépeint comme ça, avec une sorte de bagatelle ou d'insouciance, Fabien Béziat, car quand vous revisitez son œuvre entière, il est excellent dans ses différents genres, justement, avec une facilité.
Avec une facilité, ce qui est extraordinaire, c'est quand on regarde ses premiers cahiers de poésie, déjà à l'âge de 12 ans, il est d'une précocité et puis c'est d'une force inouïe. C'est un enfant qui a été touché par la grâce des dieux, c'est-à-dire que il a en fait en lui 1000 ans ou 2000 ans en fait de poésie classique qu'il a intégré. C'est un très grand intellectuel, Pagnol. Ça, on oublie de le dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a connu profondément en fait les latins.
Il a été biberonné par son papa, Joseph, instituteur.
Et c'est aussi en fait l'enfant de ce que produisait en fait la République, les instituteurs de la République en fait à l'époque, avec une formation extrêmement solide. En fait, il a été habité en fait par les hussards de la République, ces instituteurs en fait qui formaient extraordinairement en fait les enfants à l'époque.
Oui.
Et donc il est le fils d'un instituteur. D'ailleurs, ce qui est très beau, quand on lui demandait qui il était, il disait je suis le fils d'un instituteur. Voilà, il disait pas je suis le grand Pagnol. Et ça, c'est d'une humilité exemplaire. Et
d'ailleurs, Nicolas Pagnol, vous avez donné un certain nombre de prêté pour ce documentaire un certain nombre d'objets ayant appartenu à votre grand-père, ses cahiers d'écolier, en effet, qui étaient si importants et qui disaient déjà sa précocité dans l'écriture. Tout jeune qu'il était.
Ah oui, dans ses cahiers d'écoliers, il y a des poèmes, des dizaines et des dizaines de poèmes. On sent qu'il a tout de suite été passionné par la littérature, par les classiques. C'est très touchant d'ailleurs dans le documentaire, son ami Albert Cohen, avec qui il était au collège, à plus de 80 ans, récite de mémoire un poème de Marcel. Alors la légende veut qu'en définitive, Marcel écrivait des poèmes d'amour à Albert Cohen pour qu'il les donne à ses petites amies, et en contrepartie, Albert lui donnait une pièce chaque semaine pour qu'il puisse aller s'acheter des bonbons. Mais effectivement, Marcel a été formé intellectuellement dans cette école de la Troisième République. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois que surtout, ce que lui a inculqué Joseph, c'est une valeur fondamentale, c'est la curiosité. La curiosité.
Complètement, qu'il explique très bien aussi dans La gloire de mon père, qui sera ensuite projeté au cinéma, Karinane. Cette filiation magnifique, cet amour et cette admiration qu'il avait pour son papa.
Oui, parce que son père lui a appris l'art de chercher, de trouver, de s'instruire. On oublie quand même, Pagnol reste à ce jour, par exemple, le meilleur traducteur de Virgile.
Ah.
Il parlait le grec, le latin. Il lisait Homère, Virgile, Goethe et Shakespeare dans le texte.
Oh là là.
Donc c'est quand même effectivement quelqu'un qui était nourri des classiques, et il était persuadé que le jour où il écrirait, parce que Rostand était son auteur préféré, et il voulait écrire en vers. Et donc
Rostand, l'auteur de Cyrano, d'accord.
Oui. Et en fait, il s'est aperçu que sa voix n'était pas d'écrire en vers, mais en prose. Et en fait, certes, c'est quelqu'un qui a un extraordinaire talent, mais c'est aussi une langue très travaillée. Il ne faudrait surtout pas penser que parce que Pagnol était érudit et parce qu'il était très doué, c'est du langage parlé. C'est aussi une erreur qui a été commise très souvent.
Entrée à l'Académie française, Marcel Pagnol, le 27 mars 1947. On reparle de cette œuvre jusqu'à 11h sur Europe 1, les trésors de Pagnol, ce soir documentaire sur France 3 à 21h qu'on vous recommande. C'est magnifique et on revisite ces trésors ensemble sur Europe 1.
Marius, César et Fanny, La gloire de mon père et le château de ma mère, ou encore Le temps des secrets. Nous parlons du très populaire Marcel Pagnol, amoureux de la Provence, auteur de dialogues célèbres et savoureux.
Ah oui, Wendy. Avec son petit-fils Nicolas Pagnol, avec Fabien Béziat qui a réalisé le documentaire qui passe ce soir sur France 3, 21h, Les trésors de Marcel Pagnol, avec Karine Anne, écrivain et spécialiste de Marcel Pagnol. Cela fait très longtemps que vous puisez aussi dans l'œuvre de Pagnol. Depuis combien d'années cet homme, son univers vous intéresse?
C'était en fait à l'université. Je travaillais 8 ans sur son œuvre, j'ai fait mon doctorat.
Oui.
Et puis 20 ans après, j'ai repris mon dossier préparatoire pour écrire ce livre. Donc 20 ans après, j'ai redécouvert avec le même bonheur, vraiment.
Le livre Marcel Pagnol, un autre regard. Et on va parler de son rapport, évidemment, à l'écriture, mais aussi à ce qu'il voulait léguer avec ses mots. Extrait de la dictée de Topaz. Écoutez.
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Et ben voilà, c'est pas compliqué. Si on avait tous eu des instits comme ça pour les dictées, on aurait eu de très très bonnes notes. Je vous parle de la dictée parce que elle est très importante dans la vie de Pagnol. Dans ce documentaire, Fabien Béziat, on apprend notamment que pour satisfaire aussi son père, il souhaita très tôt, Marcel Pagnol, écrire des livres dont on pourrait s'inspirer pour faire des dictées. Et il a été servi, en l'occurrence.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une anecdote qu'il raconte, mais en fait, quand son père, Pagnol pensait en fait que son père en fait l'admirerait justement parce que dans ses ouvrages en fait on pouvait en tirer des dictées,
oui.
Et il disait que peut-être il serait plus fier que l'Académie française. Pour lui, c'était ça en fait la reconnaissance ultime en fait. Voilà.
Eh bien, il a été reconnu parce que tous nous avons eu à satisfaire les dictées de Pagnol. Il continue à être associé à la dictée encore. Vendredi 7 juin, l'opération Tous prêts pour la dictée. Ce sera à quelques jours du brevet des collèges, en direct sur France 3 dans toutes les régions, à 10h15, en direct aussi en édition en ligne, dans le rôle du lecteur de la dictée de Pagnol, Abdel Malik, aujourd'hui. Marcel Pagnol, la dictée, les prix littéraires aussi, Carinane.
Oui, puisqu'il existe le prix Marcel Pagnol, qui est un prix qui a été créé et qui est organisé chaque année par Floris Grimaud, en partenariat avec le Fouquet's. On le remet tous les ans dans le Salon Rému, d'ailleurs. Et qui récompense des livres sur l'enfance, l'imaginaire de l'enfance, les récits d'enfance, les enquêtes familiales, etc. Puisque Pagnol s'inscrit vraiment dans ce thème. C'est vraiment l'auteur, si on dit voilà, l'auteur des souvenirs d'enfance, on va immédiatement vous dire Pagnol.
Oui.
Donc c'est très important. C'est aussi un des auteurs, les 50 premiers auteurs les plus lus dans les classiques. Donc ça aussi, c'est important. Et c'est effectivement quelqu'un qui a signé parmi les plus belles pages de la littérature française. On a publié, les éditions des Saint-Pères ont publié les manuscrits de Marcel Pagnol sur la gloire de mon père il y a 2 ans. Et on voit cette écriture magnifique. La calligraphie de Pagnol est quelque chose d'absolument incroyable. Il y a peu de ratures. Alors, il y a plusieurs. Ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à des manuscrits, par exemple, de Zola, il n'y a pas beaucoup de ratures, mais il y a plusieurs pistes. Il écrit plusieurs fois la même scène, mais différemment. Mais sans raturer, d'une écriture fluide, ronde, calligraphiée, c'est un objet magnifique.
Carinane et Nicolas Pagnol, vous allez nous dire dans un instant comment vous faites vivre, vous, petit-fils, et avec votre famille, l'œuvre du grand-père, académicien, on en parlera également, qui a inspiré tant le cinéma, le théâtre et peut-être des écrivains et des écoliers. À tout de suite sur Europe 1. Avec les œuvres revisitées de Pagnol par Claude Berry, à l'instant, vous entendez ce thème magnifique de Jean de Florette, Jean-Claude Petit, à la composition musicale. C'est un thème qui reste dans les esprits, Carinane, vous qui êtes spécialiste de Pagnol, et qui a un sens, ce thème joué à l'harmonica. L'harmonica dans la vie de Pagnol, c'est un objet très important.
Oui, c'était l'harmonica de son petit frère Paul, qui est mort trop tôt. Aux alentours de 30 ans, et Pagnol a été extraordinairement blessé, heurté par cette mort, parce qu'en plus, il avait insisté pour qu'il se fasse opérer, il avait des problèmes d'épilepsie, et en fait, voilà, il est décédé sur la table d'opération. Et il y avait son harmonica sur sa table de nuit. Et Pagnol a récupéré cette harmonica.
Cette harmonica que l'on voit dans ce documentaire, Nicolas Pagnol, que vous avez gardé précieusement dans la famille, évidemment, qui fait sens aussi beaucoup pour vous, le petit-fils.
Oui. Marcel était entouré d'objets très symboliques. Bien sûr, l'harmonica du petit Paul, qui sans doute lui rappelait son enfance. C'est très émouvant de voir cet objet parce qu'il symbolise vraiment une fraternité complète, un amour inconditionnel qu'on ressent bien dans les souvenirs d'enfance. Mais il y avait aussi la massette de son grand-père, André Pagnol, qui était tailleur de pierre, maître compagnon tailleur de pierre.
Mm-hmm.
Marcel, enfin, ce personnage l'a vraiment beaucoup inspiré parce que cet homme qui ne parlait que le provençal, qui était quasiment illettré, eh bien, ses sept enfants, sont devenus instituteurs à coups de masse. Il a réussi à payer les études de ses enfants. Et en cela, Marcel est resté très proche du travail manuel des artisans. Et d'ailleurs, il concevait son cinéma comme... il le faisait d'une manière très artisanale, c'était une petite équipe. C'était... Donc oui, nous avons, avec toute la famille, décidé, quand Fabien est venu nous voir et qu'on a vu la qualité du projet, nous avons décidé pour la première fois de mettre à disposition tout le fond Marcel Pagnol.
Oui, cinéma très artisanal, Nicolas Pagnol, mais cinéma et industrie Pagnol, Fabien Béziat, parce que l'homme Marcel Pagnol maîtrisait tout. Et il était prolixe, on en a parlé, donc il savait aussi incarner les différents métiers dans cette chaîne de production.
Non seulement il a incarné tous les métiers, c'est-à-dire qu'il est de l'écriture, de la page blanche jusqu'à la salle de cinéma, parce qu'en fait il possédait toute la chaîne entière en fait de production, c'est-à-dire il avait ses studios, il avait ses équipes, toujours les mêmes équipes, des amis, effectivement de façon artisanale. Il avait après ses réseaux de distribution, ses agences, il avait ses salles de cinéma qui lui permettaient aussi à certains moments, c'est très émouvant, de faire des previews comme on disait en fait, c'est-à-dire qu'il montrait un film qui n'était pas tout à fait terminé en fait comme ça, de façon inopportune. Et puis il se cachait dans la salle et puis il voyait la réaction du public, et si les sièges grinçaient un petit peu à un moment donné, il revenait en fait à l'ouvrage et il reprenait le film. Enfin voilà, il avait une capacité en fait énorme de pouvoir retravailler finiment en fait son œuvre comme un orphèvre. Et ça, c'est dingue. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui voulait une liberté absolue, voilà, c'est-à-dire qu'il voulait pouvoir faire exactement ce qu'il voulait, ne rien avoir imposé. Et donc, voilà, il fallait une liberté financière aussi pour pouvoir être un homme libre. Oui. Et il a très vite compris, voilà.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a réussi à être écrivain, poète et capitaine d'industrie, Karina. Et ça a fonctionné.
Ah, très, très bien, ça a fonctionné très, très bien. Et d'ailleurs, il s'est détourné du cinéma quand c'est devenu une très, très grosse industrie avec les majors, etc.
Dans les années 50 finalement.
Oui, un peu après. Voilà, et il est parti dans l'écriture sur la fin de sa vie, sur les mémoires et les romans, avec le bonheur et le succès que l'on connaît. Oui.
Il avait quel rapport à la critique, Fabien Béziat et Nicolas Pagnol, Marcel Pagnol, parce que le public l'a toujours suivi, ses œuvres ont eu toujours beaucoup de succès, à la fois au théâtre, au cinéma et en littérature. La critique, elle s'est comportée comment avec lui?
Il a été assassiné par la critique, vraiment assassiné. C'est-à-dire quand on reprend les revues de presse, et moi j'ai compilé en fait toutes les revues sur toutes les années, parce qu'il y a quelque chose qui est très émouvant, c'est que Marcel conservait dans des cahiers chaque coupure de presse, il est découpé, il est collé, il est conservé. Mmh. Alors il y avait beaucoup de coupures qui étaient très élogieuses, mais il y avait aussi toute une partie de la critique qui ne lui pardonnait pas en fait son succès, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas admissible, c'est-à-dire c'est d'être finalement un cinéaste auteur, et en plus avoir du succès, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable.
Elle disait quoi cette critique ? Elle s'acharnait sur quoi ? Sur l'accent, sur le terroir, sur...
Alors, c'était sur plusieurs niveaux, mais en fait, souvent, la critique, elle était sur le fait que c'était finalement un marchand de commerce. C'est-à-dire que c'était un cinéaste commercial, donc douteux. C'était quelque chose, en fait, qui lui était reproché.
Mais quand il est entré à l'Académie française, est-ce que la critique a changé de regard, Nicolas Pagnol ?
Non, pas du tout. Sur son cinéma, pas du tout. Il faudra attendre un numéro des cahiers du cinéma où Truffaut et Godard vont se réclamer de l'école Pagnol et l'encenser, au même titre que Guitry, hein, qui avait subi le même problème. En fait, cet acharnement de la critique vient du fait qu'il venait du théâtre.
C'est ça, il était contemporain de Guitry d'ailleurs. Hein, oui.
Il était contemporain de Guitry, oui. Mais il venait du théâtre, Marcel, et il va se mettre à faire du cinéma parlant. Donc les gens du théâtre vont le traiter de traître, comme quoi il veut tuer le théâtre, et puis les gens du cinéma muet, dont René Clair, eux se sentent en danger parce que le cinéma muet pouvait s'exporter, vous faisiez un bon film en France, il pouvait s'exporter dans le monde entier. Mm-hmm. Et puis les stars du muet ne savaient peut-être pas jouer la comédie, qui avait ce côté très de l'esthétisme du muet. Pagnol va à l'encontre de tout ça, et donc on va lui dire, vous faites du théâtre en boîte. Le cinéma n'a pas à parler, vous faites du théâtre en boîte, vous enregistrez de la parole, vos films sont bavards, et ça va commencer comme ça, et alors après ça va prendre des proportions abracadabrantesques. D'ailleurs, Marcel va créer un magazine cinématographique, Les Cahiers du Film, pour pouvoir développer ses propres théories et répondre aux critiques.
Ah, oui. Voilà. Ah oui, c'était vraiment une guerre féroce, et une critique
Ah mais ça terrible. A été, oui, vraiment féroce.
Ouais. On poursuit cette plongée dans les trésors de Marcel Pagnol avec nos invités. Vous les entendez à l'instant, Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, Fabien Béziat qui réalise le documentaire que vous verrez ce soir sur France 3 à 21h, et Karina, auteure de Marcel Pagnol, Un autre regard. Elle est écrivaine et spécialiste de ce grand talent. À tout de suite sur Europe 1, quelques instants encore.
Un pied dans la littérature et l'autre dans le cinéma. Nous parlons de Marcel Pagnol ce matin. Marcel Pagnol qui a fait de la Provence un bout de France éternelle.
Oui, Julie, on va pousser la porte d'un bistrot maintenant. Et la scène des joueurs de cartes. Nous sommes avec Panis, avec César, Rému dans le rôle de Marius. Écoutez un extrait.
Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci.
Je te fais de la peine.
Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein?
Oh, allons, César.
Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors.
Oh, très bien. Cœur, hein?
Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu l'as dit, ils nous font le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur.
Voilà la fameuse scène du bistrot des joueurs de cartes dans Marius, savoureuse partie dans ce qu'on appelle la trilogie marseillaise, qui est au cœur aussi de l'œuvre de Pagnol, et cette interprétation aussi. Voilà, Rému a été au sommet de sa gloire dans le cinéma de Pagnol.
Oui, et alors cette partie de cartes, au départ, Marcel l'avait supprimée. Au théâtre. Et Rému, en fait, l'a remise dans son dos. Et le soir de la générale, la partie de cartes a été jouée. Donc Pagnol était caché derrière le rideau, s'est dit, mais voilà. Et ça a été un triomphe. Et du coup, Rému, qui était un instinctif, ouais, avait compris, en fait, l'importance de cette scène. Et elle est doublement importante parce que, notamment dans le film, l'œuvre de Pagnol est construite comme ça. C'est-à-dire que vous avez des respirations avec le rire. Et puis, d'un seul coup, vous avez une espèce de tension un peu plus poétique. On glisse vers l'émotion. Et il y a cette alternance permanente entre le rire et, entre guillemets, entre le rire et les larmes, et entre le rire et l'émotion. Il y a une espèce de décontraction comme ça avec la partie de cartes qui arrive juste après, justement, dans le film, le moment où Fanny se donne à Marius. Et on a un fondu enchaîné comme ça sur le phare qui vient être battu par les flots. On comprend que le drame est en train de se nouer. Et immédiatement après, et alors, c'est à toi, ça y est, commence la partie de cartes. Et c'est la décontraction immédiate. Ouais. Et toute l'œuvre de Pagnol fonctionne comme ça.
Ce qu'on revisite aussi bien dans votre documentaire, Fabien Béziat, avec Rému, qui a été l'inspiration et le personnage principal de Pagnol dans son cinéma et au théâtre. Il savait qu'il était son interprète fétiche. Et les deux le savaient d'ailleurs.
Les deux le savaient, c'est une rencontre inouïe entre ces deux monstres sacrés, parce que Rému, c'était un acteur gigantesque. Et puis, ce qui est très important de revoir Pagnol aussi, c'est rendre hommage en fait à ces acteurs qui étaient, et même les seconds rôles comme le petit Mopi, Ali Darouf, en fait, qui étaient des acteurs absolument immenses, qui sont tous passés par le Café Concert, qui faisaient des tournées en Provence, en fait, tous les soirs. C'est des gens qui avaient une expérience, en fait, un rapport au public qui était extraordinaire. C'est pour ça que c'était aussi des si grands acteurs. Et Pagnol, en fait, qui a été bercé par ça dans son enfance, qui les avait vus en Vinter l'Alcazar, a été totalement amoureux de ces personnages. En fait, il en a fait des archétypes, des figures.
Donc, il les a rencontrés à Paris. Hein, Pagnol les a rencontrés à Paris, ces acteurs.
Non, il les connaissait déjà, en fait, très jeune à l'Alcazar. En fait, l'Alcazar, c'est un café concert, en fait, à Marseille.
À Marseille, d'accord.
En fait, où tous ces acteurs repassaient tous les soirs, en fait, sur scène. Et Marcel les connaissait déjà, en fait. C'était des acteurs qui étaient connus. Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand il est arrivé à Paris, alors Rému, lui, chez Volterra, faisait déjà une carrière importante au Théâtre Marigny. Mais Marcel savait déjà, en fait, que Rému était son personnage. Mm. Donc, il le voulait absolument, en dépit du caractère, en fait, très méditerranéen, en fait, de Rému, qui n'était pas facile, mais bon, en fait, c'est une rencontre extraordinaire, en fait, Pagnol.
Nicolas Pagnol, est-ce que votre grand-mère Jacqueline Pagnol vous a raconté justement cette histoire d'amour et d'amitié très forte entre votre grand-père et Rému, avec ses hauts et ses bas, justement, dans cette relation?
Alors, ma grand-mère a très peu connu Rému parce qu'elle a rencontré mon grand-père. Enfin, ils se sont mis ensemble en 44. Rému est décédé en 46. Elle m'a dit que c'était quelqu'un d'extraordinairement distingué, formidable, absolument rien, qu'il n'y avait absolument rien à voir avec le Rému qu'on voit à l'écran. Non, moi, j'ai vraiment pris conscience de leur relation lorsque j'ai découvert leur correspondance. Il y a d'ailleurs un spectacle qui se joue qui s'appelle Jules et Marcel.
Oui.
Et leur correspondance est extraordinaire. Ils se disent des choses magnifiques et des horreurs. Et Rému est tout le temps en train d'étrier Marcel en lui disant qu'il est un mauvais réalisateur, en remettant en cause ses choix sur la distribution, sur le chef opérateur, sur la durée du film, jamais sur le scénario. Et Marcel est obligé de faire preuve d'une diplomatie à toute épreuve pour calmer son ami et pour arriver à manœuvrer et à faire en sorte que les films se fassent.
Oui, de Rému à Fernandel que Pagnol révèle au cinéma.
Oui, c'est Pagnol qui va effectivement révéler la dimension dramatique de Fernandel, parce que jusque-là, c'était un comique. Et ce qu'il faut préciser aussi pour Rému, et ça, c'est très important, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, par la suite, Pagnol écrit en pensant à Rému. C'est-à-dire que quand il fabrique son texte, il l'entend déjà dans la bouche de Rému. Et il décide de les réunir, donc Fernandel et Rému, dans La fille du puisatier. Et là, le tournage est quand même compliqué parce que c'est le choc de deux égaux. Hein, oui. Donc il faut faire en sorte que s'il y a un gros plan de l'un, il y a aussi un gros plan de l'autre. Marcel termine le tournage un peu fatigué par ces deux géants, mais qui vont se révéler des acteurs absolument incroyables.
C'est pour ça que le nom de l'héroïne, Josette Day, est en gros sur l'affiche et que les noms de Rému et de Fernandel sont en soi l'équivalent.
Ça, c'est parce que Marcel a toujours fait tourner les femmes qu'il a aimées, avec plus ou moins de bonheur. Mais enfin, en tout cas, voilà. Et effectivement, il a été fou amoureux de Josette Day et les affiches étaient Josette Day en énorme avec Fernandel et Rému en tout petit. Et le jour où Rému a découvert l'affiche, il a dit c'est Blanche-Neige avec ses deux nains. Il était très en colère.
Avec le verbe haut encore. Nicolas Pagnol, Fabien Béziat et Karine Anne, quelques instants pour parler encore du trésor national de Pagnol que vous découvrirez ce soir 21h sur France 3.
Quelques minutes encore en compagnie de Marcel Pagnol, Wendy Bouchard.
Avec la poésie aussi de Pagnol, dite avec ou sans l'accent qui est belle, parfois triste et mélancolique, je vous cite ces mots du Gaulin, « Papet, je m'en vais parce que j'en peux plus, c'est pas pour les œillets, tant pis s'ils crèvent, c'est à cause de mon amour. J'ai compris qu'elle ne me voudra jamais, je m'en doutais parce que mon ruban d'amour m'a fait un abcès qui me brûle. » C'est magnifique, et quand vous revoyez aussi l'œuvre de Berry avec Jean de Florette, Manon des Sources, on replonge dans la force et dans l'intensité des mots du verbe de Pagnol.
Ah oui, c'est vraiment ces films, c'est une très 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 belle adaptation, c'est très très réussi. Et c'est vrai que Pagnol, il y a une poésie, même dans les souvenirs d'enfance, vous avez les descriptions de la Provence. C'est un paysage presque féerique. C'est une écriture, des figures de style magnifiques. C'est tout sauf un langage parlé, Pagnol.
Ouais, avec le talent de Claude Berry, avec le talent d'Yves Robert pour La gloire de mon père, Le château de ma mère, avec les interprètes, Montand, Depardieu, Daniel Auteuil. Nicolas Pagnol, comment vous faites vivre aujourd'hui, en 2019, l'œuvre de votre grand-père, justement? Parce qu'on a à la fois ces films qui restent, on a aussi tous les enregistrements audio avec des éditions que l'on peut trouver.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a bien sûr la restauration des films, qui me prend beaucoup de temps. C'est très important parce qu'il faut les conserver, il faut les restaurer pour pouvoir après les ressortir au cinéma, en DVD. Il y a aussi, bien sûr, le fait de pouvoir toucher les nouvelles générations. Donc, par exemple, on a sorti avec Bambou Édition une collection de bandes dessinées. On en a notre 12e volume. Cette année sort Marius et Jean de Florette. On a déjà sorti tous les souvenirs d'enfance, mais il y a aussi le théâtre ou le cinéma. Et là, je dois dire que on a beaucoup de demandes et le but est de privilégier les gens les plus sérieux, les meilleures demandes. Bon, on se trompe parfois on tape juste. Et notamment, il y a ce magnifique documentaire, Les trésors de Marcel Pagnol. Ça faisait des années que je l'attendais et j'ai tout de suite vu, quand Fabien est venu me voir, qu'on allait sortir de l'image d'Épinal, du folklore, et qu'on allait parler de Marcel réellement et remettre les choses à leur place.
On apprend beaucoup. Alors, j'encourage nos auditeurs à aller voir sur votre site aussi, Marcel Pagnol. www.pagnol.com où on peut trouver de très belles affiches originales de ces films, les coffrets audio, des pièces de théâtre, des films d'époque enregistrés, parce qu'on a envie de réécouter Pagnol, je crois, aussi au terme de cette émission. Je vous remercie, Nicolas Pagnol, d'être venu nous en parler. Je salue le Merle, je crois, qui est à côté de vous. Vous êtes où, là, Nicolas Pagnol, ce matin ?
Je suis à Paris.
Ah non, c'est Fabien. C'est Fabien qui est à côté d'un oiseau ?
Oui. Oui, en fait, voilà, je suis dans le sud-ouest, moi.
D'accord.
C'est les petites hirondelles, en fait.
Les petites hirondelles, très bien.
De chanter, voilà.
Bon, Nicolas et Fabien Béziat, merci, bravo pour ce documentaire que vous découvrirez ce soir sur France 3 à 21h, Les Trésors de Marcel Pagnol. Et pour redécouvrir encore l'œuvre de Pagnol, Un autre regard, c'est votre ouvrage, Carina, nos éditions du Rocher. Merci de nous avoir donné un peu de votre passion ce matin. C'était très
merci
intéressant.
Merci de m'avoir reçu.
Merci. À demain, ma chère Julie.
Pagnol qui disait, j'essaie de faire rire des gens qui ont bien des raisons de pleurer.
Ah oui, c'était beau. Bah voilà, le sens de la formule.
À demain, Wendy Bouchard.